au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Jean-François Mattei, vous êtes philosophe, professeur à l'université de Sophia Antipolis et membre de l'Institut universitaire de France. Et il me semble qu'il y a dans vos travaux deux versants différents. Un premier versant qui est plutôt de l'histoire de la philosophie avec Platon, Heidegger, Nietzsche. Et puis un versant, disons, plus engagé, qui analyse le monde d'aujourd'hui en faisant l'inventaire des effets, disons, de la perte du sens. Pourquoi cette perte? Est-elle liée ou pas à la perte du lointain? Et on peut considérer avec Lévinas que la civilisation est d'une certaine façon une distance prise avec soi-même qui rend possible une intrigue avec un au-delà, au-delà de soi, au-delà du monde. Si cette distance, comme nous le constatons aujourd'hui, s'écrase, si la culture perd le goût de l'horizon, alors d'une certaine façon, l'individu s'enferme en lui-même et devient despotique. Il devient étranger à tout ce qui n'est pas lui. Et donc ce processus de perte de sens que vous étudiez, de perte du sens, advient avec la modernité, ou plutôt, et telle sera l'une de nos questions, avec l'un des versants de cette modernité qui conduit l'individu à se dissoudre et à se fragmenter. Donc sur cet aspect-là, enfin sur ce versant-là de vos travaux, différentes œuvres. Le premier en 1999, ce magnifique livre qui s'appelle « La barbarie intérieure ». Le deuxième, « De l'indignation » en 2005. Et puis aujourd'hui, et qui nous vaut votre présence parmi nous, le regard vide sur l'Europe. Alors je n'oublie pas, parce que l'actualité nous rattrape, mais un livre que vous avez dirigé avec Raphaël Drey, qui s'appelle « La République brûle-t-elle » en 2006, et qui réfléchissait sur les émeutes des banlieues. Et j'invite tous nos auditeurs à se précipiter sur ce livre qui est tout à fait d'actualité. Donc je voudrais qu'on étudie les deux éléments et les deux aspects de votre pensée, la barbarie d'une part, et puis d'autre part, l'Europe. Ce premier livre dont nous avons parlé, donc « La barbarie intérieure » de 1999, décortique le processus d'une façon de tenue de l'âme, sa mise en forme, et avec la modernité, le processus de déformation de la même âme, ou plutôt de centration de l'âme sur le seul individu. Le second livre que nous avons évoqué, lui, s'en prend aux fausses indignations, et le troisième, à la spécificité de l'Europe. Donc, pour nous centrer dans une première partie sur la barbarie intérieure, il me semble qu'il y a deux éléments à mettre, que vous mettez en évidence dans ce livre. Un, cette barbarie qui est en nous, cette âme barbare dont parle Platon. Et deuxièmement, ce monde, le nôtre, devenu immonde, à savoir inapte à accueillir le travail de civilisation de l'homme. Donc première question, par rapport à tout ce travail que vous avez fait sur ce processus de civilisation, et formulons cette question simplement, comment l'homme devient-il lui-même? L'est-il naturellement ou le devient-il? Et quel est ce processus d'éducation qui le fait devenir homme?
Il me semble que vous posez la question centrale de l'humanité européenne, comme disait Husserl, à savoir comment est-ce que l'homme devient humain, en quelque sorte. Il m'a semblé, en m'appuyant non seulement sur toute l'histoire de la philosophie, mais de la littérature, de la peinture, ou de ce qu'on appelle la grande culture européenne, qu'il y avait effectivement un processus et un mouvement, je dirais, sans fin, comme une vis sans fin, d'auto-transformation de l'homme, en tout cas dans l'humanité européenne, qui passe essentiellement par la constitution d'un monde d'œuvres, à partir d'une approche des trois domaines dans lesquels la pensée européenne s'est illustrée. Et là, je m'appuierai, si vous voulez, ou je m'inspirerai des travaux de Patochka, par exemple, dans Platon et l'Europe, ou dans les Essais hérétiques, où le grand philosophe tchèque, disciple par ailleurs de Husserl, fait remarquer que ce qui a toujours défini la conscience européenne, lui-même parle d'âme européenne, en reprenant une expression qui était déjà, par exemple, chez Paul Valéry. Il fait remarquer que l'âme européenne a toujours consisté à avoir un regard sur les trois domaines de notre expérience, c'est-à-dire le domaine du monde, et ce regard, c'est le regard de la connaissance, ce qui a donné naissance à la science occidentale, un regard sur la vie en commun, la vie partagée, et ça a donné naissance à la philosophie politique, à l'avènement de toute la réflexion sur le fait du vivre en commun dans un espace public, et jusqu'à l'avènement de la démocratie, qui est quand même une invention essentiellement européenne, et un regard de l'âme tourné sur elle-même, tourné vers soi, qui s'irrigue en quelque sorte elle-même, tout en gardant toujours la même distance à l'égard d'elle-même, car la caractéristique fondamentale de l'âme européenne, de Platon à Patochka, d'Aristote à Hannah Arendt, si vous voulez, c'est que ce regard a toujours été un regard distant, un regard éloigné, un regard théorique, si vous me permettez le pléonasme, qui consiste en tenant à distance une certaine idéalité, une certaine modélisation du monde, de l'homme et de l'âme elle-même, c'est-à-dire de l'homme lui-même, à creuser par rapport à la réalité existante dans laquelle nous vivons quotidiennement, un espace critique. On répète toujours que la pensée européenne ou l'âme européenne est une pensée critique, ce qui est vrai, comme on le voit par exemple à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle européen. Mais cette critique, il faut bien comprendre qu'elle n'existe que par la tension qui l'éloigne de l'idéalité de l'idée, ou de ce que Husserl, dans son vocabulaire, appelait un télos, c'est-à-dire une fin, qui est finalement la finalité de l'universel. Que ce soit dans la connaissance, lorsque je m'intéresse au monde, je vise une connaissance universelle et à dégager des lois théoriques à partir d'un processus d'abstraction intellectuelle, que ce soit dans la vie commune et dans le partage de l'existence que nous avons ensemble dans un même espace public, il y a là aussi constitution d'un modèle idéal, ou que ce soit dans la construction ou dans la constitution de soi-même, déjà au sens où Marc Aurèle disait qu'il fallait sculpter sa propre statue, alors que ce soit sous la forme grecque ou sous la forme chrétienne, de la personne humaine et pas simplement de la statue, vous avez une sorte de reconstruction de l'âme de soi par soi qui renvoie toujours à la même distance critique à l'égard de soi-même. On le voit très bien par exemple chez Socrate ou chez Platon quand il fait parler Socrate à partir du « connais-toi toi-même » où l'autoconstitution de l'homme à travers ce que Platon appelle soit la philosophie, soit la dialectique et qu'on pourrait appeler tout simplement l'éducation éthique, consiste à revenir sur soi, mais à prendre une distance sur soi, qui est à la fois ironie, au sens de l'ironie socratique, mais en même temps humour, puisque précisément, Socrate se tient toujours, ou les philosophes après Socrate se tiennent toujours à distance d'eux-mêmes.
Je voudrais qu'on essaie de faire un peu de pédagogie, c'est-à-dire, là vous arrivez effectivement à l'homme européen, et vous montrez bien dans ce premier livre, enfin La barbarie intérieure, les éléments de construction, donc les strates de construction. Alors vous avez parlé de Platon, et je voudrais qu'on essaie de reprendre d'une part la pensée grecque pour remonter jusqu'à l'homme européen d'aujourd'hui. Donc vous avez cité Platon, la dialectique, vous commentez ce texte de Platon, et je voudrais que vous...
Le rappeliez.
Non, que vous nous disiez un peu ce que vous en pensez. Donc ce texte de Platon, République 7, « L'œil de l'âme, véritablement enfoui dans je ne sais quel barbare bourbier, la dialectique le tire tout doucement et l'amène en haut. » Et on a l'impression que là, il y a effectivement le premier processus avant tous les autres, et avant toutes les couches romaines, puis chrétiennes que nous verrons après, il y a là ce premier travail de gestation.
Oui, tout à fait.
Et alors effectivement, c'est un élément important. Donc comment est-ce que vous analysez, ou comment est-ce que vous, vous voyez ce travail d'extraction? Voilà.
Oui, le mot d'extraction me paraît tout à fait juste. Dans La barbarie intérieure, donc en 1999, quand l'ouvrage est sorti, j'avais effectivement fait état de ce texte qui est généralement assez peu cité par les platoniciens, qui généralement, dans ce livre 7 de La République, s'intéressent surtout au mythe de la caverne et aux différents développements que tire Platon sur la paideia, sur l'éducation. Mais il y a effectivement un peu plus loin les conséquences de cette éducation ou de cette élévation au-dessus de soi-même, où Platon, reprenant un vieux mot qu'on trouvait déjà chez Homère dans l'Iliade, à savoir le mot « barbarophone », qui est tout simplement une sorte de bredouillage ou de borborygme, puisque lorsque Homère désigne un peuple d'Asie mineure dans la Turquie d'aujourd'hui qui s'appelle la Carie, les Cariotes, il dit que ce sont des peuples qui sont barbarophononnes. C'est la première apparition du mot de barbare. Autrement dit, il parle barbare. Mais qu'est-ce que ça veut dire en grec parler barbare? Comme on dit qu'on est anglophone ou francophone, on parle anglais ou parler français, qu'est-ce que veut dire parler barbare? Ben, ça veut dire tout simplement bredouiller, avoir un langage inarticulé, non seulement sur le plan physique et acoustique, mais sur le plan intellectuel, n'est-ce pas? Une sorte de confusion d'esprit. Et Platon, le terme, comme vous le savez, après Homère, deviendra à peu près systématique pour opposer de façon duelle les non-grecs aux barbares, sans que toujours, lorsqu'on lit par exemple le terme chez Hérodote dans ses enquêtes, sans que toujours le terme soit nécessairement péjoratif. et barbare ce qui est extérieur à l'hellénité.
Donc c'est plutôt ce que vous dites dans ce livre, c'est que c'est plutôt les Romains qui vont
ce sont les Romains qui vont durcir la forme et qui vont opposer la barbarie à la romanitas, la romanité, c'est-à-dire la civilisation. Le texte que vous citiez donc du livre 7 de la République chez Platon est intéressant parce que pour la première fois Platon fait un usage, je dirais ontologique et éthique, du terme de barbare en disant que si l'être humain qui naît comme un prisonnier dans la caverne, c'est-à-dire dans cette sorte de matrice cosmique qui fait que nous vivons une sorte d'univers totalement illusoire et virtuel sans savoir où est la vérité, ce qui est une hypothèse philosophique chez Platon, à savoir qu'il existe une vérité, ou comme je disais tout à l'heure, qu'il existe une idéalité de la connaissance, comme il y a une idéalité de l'action, que l'on appelle la justice, et comme il y a une idéalité de l'âme, que l'on appelle peut-être tout simplement le soi, ou la personne, ou la dignité de la personne. Donc on renvoie à chaque fois une identité du monde, une identité de la cité, et une identité de l'âme elle-même, c'est-à-dire de l'homme. Lorsque Platon prend cette image, il fait remarquer que si, par l'éducation, en grec paideia, on n'arrive pas à exaucer l'âme au-dessus d'elle-même, on n'arrive pas à l'extraire, comme vous le disiez tout à l'heure, du bourbier dans lequel elle se trouve, eh bien elle va toujours retomber par une sorte d'inertie ontologique, qui est en même temps une sorte d'inertie éthique, et il fait un jeu de mots. Déjà, barbarophone était un jeu de mots, puisque c'est la répétition de la même syllabe, barbare. Or bourbier se dit en grec borbor. Donc Platon s'amuse, si je puis dire, à parler d'un barbare bourbier, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à faire une sorte de grommellement, d'expression grossière, pour bien montrer que la pensée humaine n'est plus articulée. Et n'est plus articulé à quoi ? Non pas simplement à soi-même, mais articulé au monde et au-delà du monde pour Platon, au-delà de l'idée qui la guide en quelque sorte.
Mais on a l'impression que ce texte, qui effectivement a été mis en exergue par vous, est absolument une forme de matrice
il me semble.
Du souci d'éducation qui est celui, pour rester dans la sphère européenne, celle de l'Europe. Donc l'idée effectivement de quelque chose en nous qui serait une barbarie, donc la barbarie intérieure... Que nous portons en nous. Et le souci, effectivement, de mise en forme de notre âme et donc d'extraction de cela. Et il semblerait que ce premier geste, enfin ce premier texte platonicien, traverse tout le souci d'éducation
européen. Pratiquement. Voilà. Vous le retrouvez, par exemple, chez Kant, lorsqu'il parle du mal radical, idée qui sera reprise, mais sous une autre forme, par Hannah Arendt. Vous le retrouvez aussi chez Rousseau, par exemple, lorsque Rousseau, tout en saluant ce que l'on appelle au XVIIIe siècle le bon sauvage, mais le bon sauvage se trouve aussi chez Diderot, chez d'autres auteurs, distingue ce qu'il appelle l'amour de soi, qui renverrait effectivement à une sorte d'élévation de l'âme et d'extraction de sa gangue barbare, et ce qu'il appelle l'amour propre. C'est-à-dire que lorsqu'on succombe à l'amour propre, sans avoir de distance critique à l'égard de soi-même, on s'effondre en quelque sorte dans la violence et dans la barbarie, dans ce que j'ai appelé, en jouant sur les mots, non seulement grec mais français, l'immonde. Parce que ce qui est immonde, c'est ce qui n'arrive pas à faire un monde ordonné en fonction de lois éthiques qui donneraient un sens à l'existence.
Donc ça vous amène à définir la barbarie, donc comme d'une certaine façon, ce qui est en nous une...
À l'état latent, je dirais.
À l'état latent, une forme de désertion de soi, de régression du moi, qui retomberait, c'est ça, dans ce bourbier barbare enfin, qui nous habite. Et vous dites, avec une formule qui n'est pas sartrienne, l'enfer, c'est toujours soi-même. Non pas les autres, mais toujours soi-même. Voilà ce qui est l'inverse. Donc, ce qui veut dire que naturellement, donc là, on est au cœur de l'idée suivant laquelle l'homme est zone politique, donc est un animal politique toujours fait pour vivre avec les autres et en société, pour s'éduquer lui-même. Et que donc, la régression, c'est bien d'être seul et de retomber dans son magma.
Il me semble pratiquement que tous les grands penseurs, philosophes, poètes, écrivains européens ont insisté là-dessus. Dès que nous sommes laissés à nous-mêmes, nous sommes d'une certaine manière vides. Il faut absolument que par la culture, ça peut être aussi la religion, ça peut être aussi la politique, enfin toutes les hautes formes de la culture, et la culture passe donc par cette éducation de soi-même. Si on ne passe pas par ça, je pense qu'il y a toujours une tendance lourde chez l'homme, Simone Weil, il aurait parlé de pesanteur et non pas de grâce, si vous voulez, à retomber en soi et dans ce qu'il y a de moins élevé et même de plus vide, d'une sorte de vacuité spirituelle et intellectuelle. Je ne parle même pas de vacuité religieuse en tant que telle, ça renverrait à la révélation et à d'autres formes de choix, mais sur un plan strictement pédagogique, si l'individu humain ne s'élève pas, et ne s'élève pas à travers une langue, à travers une culture, à travers une éducation qui le tire vers le haut, et vers le haut, c'est là que nous revenons au début de notre conversation, c'est-à-dire vers une certaine idéalité, je crois qu'il y a toujours un affaissement. Il y a toujours un affaissement, et l'affaissement est toujours un affaissement en soi-même, et dans une sorte de vacuité, dans ce que Lipovetsky aurait appelé l'ère du vide, en quelque sorte.
Monsieur Maté, je crois qu'on va faire une petite pause musicale avant que de reprendre cette odyssée européenne qui va nous amener jusqu'à votre dernier livre, Le regard vide, qui montre bien effectivement, au bout de cette aventure, une autre forme de vacuité. Nous reprenons donc notre entretien. Nous avons quitté Platon, enfin si on peut dire que nous quittons Platon, enfin nous avons posé Platon comme étant le geste inaugural de l'éducation. Rome, dites-vous, a d'une certaine façon augmenté ce clivage entre l'homme civilisé et l'homme barbare, mais je voudrais en venir à cette révolution, puisque vous parliez de religion et de christianisme, à cette révolution spirituelle dont vous parlez dans votre livre, qui est celle du christianisme, et qui a transféré, dites-vous, le centre de gravité de l'âme en Dieu. Il y a une forme de révolution de l'homme intérieur, et qui se manifestera, dites-vous, principalement avec Augustin, qui découvre l'homme à l'intérieur, ou plutôt qui découvre qu'à l'intérieur de moi-même, il y a plus intime que moi-même, Dieu, et donc ce virage augustinien vers le moi, dont parle Taylor, est absolument central dans la constitution de l'individu. Donc comment est-ce que vous, dans notre construction, notre odyssée de l'homme européen, comment est-ce que vous voyez ce virage du christianisme qui, effectivement, renvoie, non pas à l'extérieur, comme si Dieu était seulement à l'extérieur, mais aussi dans cette intimité, dans ce tréfonds, dans cet homme intérieur qui habite au fond de moi.
Bien, l'originalité du mouvement que vous décrivez, que vous qualifiez justement d'odyssée, l'originalité vient du fait qu'elle a commencé d'abord par une sorte de premier virage, qu'on pourrait dire socratique ou socrato-platonicien, que l'on voit par exemple dans le premier Alcibiade de Platon, dans lequel, pour la première fois, ce n'est pas autour de Dieu, enfin du Dieu ou des dieux des anciens, si vous le voulez, du polythéisme, ou autour du monde, ou autour de la physis de la nature que se cristallise l'apparition de l'homme ou de l'âme à lui-même, de la psyché à elle-même, mais autour de la psyché elle-même. Le premier renversement avant l'apparition du christianisme, c'est le renversement, disons, socratique, à partir du gnotiseoton, à partir du connais-toi toi-même, dans lequel, comme Socrate le dit à Alcibiade, ce qui fait l'identité d'un homme, ce qui fait que je suis ce que je suis, moi Socrate ou toi Alcibiade, ce n'est pas simplement mon identité sociale, ma citoyenneté politique, le nom même que je porte, c'est mon âme. Même pas mon âme unie à mon corps. Et donc, il y a déjà un premier décentrement. L'homme n'est plus centré sur sa famille, n'est plus centré sur ses dieux, n'est plus centré sur son corps, n'est même plus centré sur l'union de l'âme et du corps, c'est-à-dire sur une totalité organique, mais il est centré sur son âme. Et l'excentration va continuer chez Socrate et donc chez Platon, puisque ce qui fait qu'une âme peut rencontrer une autre âme, lorsque je regarde par exemple le regard d'autrui, c'est l'expression de Socrate, c'est que je rencontre au-delà de ce regard le regard de Dieu. Alors quel est le Dieu de Socrate? Ça c'est un petit peu différent, mais il va devenir d'une certaine manière le Dieu de l'Évangile, à partir de saint Augustin, qui est aussi platonicien, et pas simplement chrétien. Alors le deuxième virage, beaucoup plus violent, le deuxième tournant en quelque sorte, dans le regard que l'homme porte sur lui-même, est une sorte alors là de révolution copernicienne, dans lequel effectivement ce n'est plus l'homme qui est au centre de lui-même, ou la Terre au centre d'elle-même, mais le soleil platonicien, ou le soleil divin, si je puis dire, à savoir que avec le christianisme, c'est autour de Dieu que va tourner l'identité de l'homme en tant que créature, mais d'un Dieu qui, paradoxalement, se retrouve en soi, au fond de soi-même, ce qui est la grande idée de saint Augustin dans les Confessions, lorsqu'il dit de Dieu qu'il lui est plus intime que sa propre intimité même. Et d'une certaine manière, la pensée européenne va prendre son envol, et pas simplement dans la religion chrétienne en l'occurrence, ni même dans la philosophie, mais même dans la littérature. Milan Kundera fait par exemple remarquer dans l'art du roman que le roman est une invention strictement européenne, parce que qu'est-ce que c'est que le roman, depuis Tristan et Iseut, ou même depuis Cervantes et Don Quichotte? C'est essentiellement l'intrigue d'une âme qui se cherche elle-même, et jusqu'à Proust c'est la recherche du temps perdu, et qui essaye de s'atteindre parce qu'elle pose implicitement cette recherche du narrateur, qu'elle n'existe que dans l'intrigue d'elle-même, en quelque sorte. La notion d'intrigue, vous la trouvez chez Lévinas, vous la trouvez aussi chez Kundera, c'est-à-dire, vous la trouvez chez Ricoeur, quand il parle de la narration de soi-même, car l'originalité de l'effort de l'âme européenne pour s'atteindre elle-même, et encore une fois j'y insiste, non seulement dans la religion, mais dans la philosophie, dans la littérature, sans doute aussi dans la musique, et dans toutes les formes de haute création culturelle, c'est que c'est toujours une âme qui essaye de narrer son propre récit, d'avènement à soi, en quelque sorte. Et là, je crois que c'est une idée chrétienne, dès le départ.
Mais vous parlez d'intrigue, on peut effectivement considérer qu'il y a dans l'homme intérieur chrétien une forme de distance intériorisée. C'est-à-dire qu'entre,
je crois,
entre Dieu et soi, enfin la distance entre Dieu et soi n'est plus à l'extérieur de soi, mais en soi.
Elle est totalement intériorisée.
Tout en étant dans ce geste platonicien d'extraction, enfin je veux dire de mise en forme, voilà. Et donc on est effectivement, c'est ce que disait Patochka, l'homme dans son rapport à elle-même découvre l'éternité. Elle se découvre elle-même et elle découvre l'éternité.
Et vous avez bien fait de parler d'homme intérieur, je me permets de vous interrompre, parce que l'expression se trouve déjà chez Platon, la notion d'homme intérieur, elle se retrouve chez Marc Aurèle, elle se retrouve chez Plotin, et elle se retrouve chez Saint Paul. Et donc la pensée chrétienne a repris cette expression d'un homme intérieur pour regarder en direction d'un être intérieur, bon, que l'on appelle une âme, on pourrait l'appeler la dignité de la personne, peu importe la définition qu'on en donnera, mais qui renvoie à une transcendance, c'est-à-dire la transcendance de Dieu, mais qui est éprouvée intérieurement. C'est là le paradoxe. Ce qui fait que, et là j'insiste beaucoup dans l'ouvrage consacré à l'Europe, qui s'appelle donc Le regard vide, j'insiste beaucoup sur le fait que plus le regard sur soi de l'Européen est lointain, au sens du regard éloigné de Lévi-Strauss, et plus ce regard nous découvre le proche. En quelque sorte, Lévi-Strauss fait remarquer, justement dans l'ouvrage qui s'appelle « Le regard éloigné », qui est un ouvrage d'anthropologie, comme vous le savez, qu'il a eu cette idée d'un regard éloigné, que j'ai moi-même repris à mon propre compte, en lisant Rousseau, dans le texte de Rousseau qui s'appelle, de Jean-Jacques Rousseau, qui s'appelle « Discours sur l'origine des langues », dans lequel Rousseau a cette formule extraordinaire, que je cite ici de mémoire, en disant « Si vous voulez connaître les hommes, regardez autour de vous, dans la vie quotidienne. Mais si vous voulez connaître l'homme, portez les regards au loin. » C'est-à-dire, là, on voit bien qu'on vise une abstraction, qu'on vise une idéalité, que l'on vise, pour tout dire, une transcendance.
Alors, dans les tournants que l'on met rapidement en place, hein, c'est juste pour donner à nos lecteurs et à nos auditeurs l'idée d'aller regarder de plus près les analyses fines que vous faites de tous ces tournants dont vous parlez, il y a donc la modernité, enfin le passage de l'âme, donc de ce souci de l'âme tel qu'on l'a vu, au jeu de l'extériorité ou de l'extériorité intériorisée, si on veut, à l'intériorité qui, d'une certaine façon, aboutit à ce malaise dont parlait Taylor, qui est à la fois l'individualisme, à la fois la primauté de la raison instrumentale et l'atomisation des individus. Donc comment est-ce que ce nouveau tournant s'est mis en place, et en quoi est-ce que ce nouveau tournant est de nature à, d'une certaine façon, détruire ou fragiliser ou mettre en question cet édifice dont nous avons parlé, ou cette construction de l'homme qui est européen, enfin voilà, qui a été mis en place par couches successives, donc ce qu'on nous avons vu, à la fois Platon, à la fois les Romains, à la fois effectivement les chrétiens.
Mais la constitution de l'homme européen en tant que modèle universel, si vous voulez, qui débouchera d'ailleurs concrètement sur les déclarations de droits et même sur la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc on vise toujours un universel. Le mot lui-même est prononcé politiquement en 1948. C'est constitué, me semble-t-il, par complexification successive à partir de la pensée grecque et de la pensée chrétienne, on n'y revient plus. Mais tant la pensée grecque que la pensée chrétienne et leur fusion à partir de l'époque médiévale et de l'époque renaissance chez tous les grands humanistes, comme on les appelait plus tardivement, s'est manifesté toujours parce que la constitution de l'âme européenne, je reprends l'expression de Patochka sur l'âme européenne, à qui l'on accorde à l'intérieur même de la pensée européenne une dignité, car enfin que l'on sache, depuis Pic de la Mirandole jusqu'à Kant, il n'y a guère que la pensée européenne qui accordait une dignité à l'être humain absolu, universel, et pas simplement à l'homo européanus, mais à tous les autres hommes. Rappelons-nous la querelle sur les Indiens qui ont une âme ou qui n'en ont pas, c'est-à-dire sont-ils des hommes universels, la querelle de Valladolid, et qui a été tranchée favorablement en faveur des Indiens, c'est-à-dire en faveur d'une vision universelle de l'humanité, qui donc à ce titre est véritablement en train d'accéder à sa propre humanité et donc est revêtue d'une dignité. Que vous preniez des auteurs comme Las Casas, Bartolomé de Las Casas, comme Voltaire et jusqu'à Lévinas, en passant par Kant, cette exigence de dignité de l'être humain européen, généralisée à l'ensemble des êtres humains de la planète, s'est toujours manifestée en fonction d'une idéalité de l'homme et donc d'une construction abstraite, si l'on veut, qui était attaché à une certaine idée, au sens kantien du terme, à une certaine transcendance, si vous le voulez. C'était pas l'homme voisin, comme on le disait il y a un instant avec Rousseau, le voisin ou même moi-même, en tant que mon propre voisinage qui était considéré, mais c'était l'homme lointain en tant qu'idéalité. Le problème, c'est que dans la modernité, la constitution progressive de ce qu'on appelle le subjectum, du sujet, s'est progressivement coupée de cette idéalité. Le sujet, pour dire les choses un peu rapidement, si vous voulez, ne croit plus en son âme, ou ne croit plus en lui-même, c'est-à-dire se replie sur soi. Quand vous prenez Kant, par exemple, on dit très souvent que Kant a donné un coup d'arrêt à la métaphysique en montrant que la métaphysique, et donc la pensée humaine, serait-elle rationnelle, ne pouvait pas démontrer l'existence du monde, l'existence de l'âme et l'existence de Dieu, les trois grandes idées de la raison. Mais Kant ajoute, dans les mêmes passages, où il montre qu'on ne peut pas les connaître, le monde, l'âme et Dieu, il ajoute qu'on peut les penser. Et non seulement qu'on peut les penser, mais qu'on doit les penser. Donc la pensée, comme le montrera d'ailleurs Hannah Arendt, qui elle-même s'inspire de Kant, est un autre exercice que la connaissance, que l'épistémé en tant que telle. Et le même Kant fait remarquer que les trois idées dont on vient de parler, l'idée de monde en tant que totalité ordonnée de l'univers, définie par des lois, l'idée d'âme, en tant qu'unité constitutive de ce qui fait la dignité de l'être humain, et même l'idée de Dieu en tant qu'unité des deux précédentes unités, sont des idées transcendantes, dit Kant, que l'on ne pourra donc jamais connaître, mais que l'on doit penser à travers ce qu'il appelle un regard transcendantal. Or, ce qui avait fait précisément, c'est la thèse que je défends dans cet ouvrage, ce qui a toujours fait l'approche, je dirais, et donc le regard de la pensée européenne, et encore une fois, pas simplement en philosophie ou en religion, mais tout aussi bien en littérature, dans le roman, dans la poésie, ou dans l'art, ou dans la musique, c'est qu'elle a toujours jeté un regard transcendantal sur le monde. Et donc ce regard était, parce qu'il visait une transcendance, d'emblée éloigné. Et c'est justement cet éloignement qui lui permettait de reconnaître, à partir d'une fonction critique de la réflexion, ce qui lui était le plus proche. Je cite à un certain moment dans l'ouvrage, donc dans Le Regard Vide, la définition de l'œuvre d'art que donne Walter Benjamin à plusieurs reprises, quand il dit que ce qui fait la grandeur d'une œuvre d'art traditionnelle, pense à l'œuvre d'art européenne, il cite Baudelaire, dont il était spécialiste, comme vous le savez, et il dit l'aura, ce qui est le mot grec ou le mot latin ou le mot français, aura, c'est toujours le même mot, qui représente un souffle, un vent, qui apporte, si je puis dire, la bonne nouvelle, qui apporte une signification, un souffle, une bouffée de sens, en quelque sorte, c'est ça l'aura. Et l'aura, pour Walter Benjamin, c'est aussi bien l'aura d'un morceau de Bach ou d'une symphonie de Mozart que l'aura, dit-il, d'une montagne au loin quand je la regarde et que je trouve un sens à la regarder, comme Cézanne regarde la montagne de Sainte-Victoire, si vous voulez. Or, l'aura, quelle est la définition qu'on donne Walter Benjamin? C'est la proximité d'un lointain. Il compose une phrase qui est elle-même paradoxale. Comment ce qui est lointain pourrait-il être proche? Et justement, c'est la merveille des merveilles de l'œuvre d'art, d'arriver à nous rendre proche la proximité du lointain, d'arriver à nous faire intérioriser, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, à propos de l'âme chrétienne, ce qui renvoie à une extériorité absolue. Et c'est justement dans cette tension entre le proche et le lointain que, me semble-t-il, s'est constituée l'âme européenne.
Écoutez, nous allons faire une petite pause pour clôturer la moitié de notre entretien et nous allons donc ouvrir pleinement ce que nous avons fait jusqu'à présent, mais de façon complète, votre livre, donc le Regard Vide, qui est un livre sur, je cite le sous-titre, essai sur l'épuisement de la culture européenne. Voilà, donc votre dernier livre s'appelle donc Le regard vide. Et là, d'une certaine façon, on a l'impression qu'il y a deux choses. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire il y a à la fois le modèle européen qu'on a essayé de construire un peu, enfin de voir un peu les éléments de construction, et puis toujours en contrepoids, en l'ombre, ce qui était la même démarche que vous aviez faite pour la barbarie intérieure, c'est-à-dire à la fois la civilité ou la civilisation et à la fois la barbarie et la dégradation du modèle, donc la dégradation du modèle européen. Alors, quand on s'attaque à l'Europe, c'est une vaste question. On la définit traditionnellement par effectivement cette alliance entre Rome, Jérusalem et Athènes, donc entre la loi, Dieu et la démocratie. Et vous dites effectivement, c'est ce que vous avez dit au début, hein, qu'il y a une particularité, que la spécificité de l'Europe, c'est son regard. Son regard qui est effectivement d'être porté vers le lointain, de creuser un espace critique et de faire l'éloge de l'infini. Et donc ce regard se décline d'une façon en trois directions. Sur le monde, sur la cité et sur l'âme. Alors, essayons de mieux, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, essayons de mieux comprendre cette idée du regard lointain. Est-ce qu'il n'y a pas, à la fois, dites-nous ce que ça veut dire ce regard lointain, donc cette proximité dans l'éloignement, cet éloignement dans la proximité, enfin quelque chose de cet ordre-là, d'une part, et deuxièmement, n'y a-t-il pas dans ce regard même un risque de surplomb et donc de peut-être de mépris à l'égard des autres ?
J'ai utilisé le terme de regard. Et d'ailleurs, le titre lui-même est inspiré d'Edgar Poe, qui, dans un texte traduit par Baudelaire, qui s'appelle « L'homme des foules », dit que l'homme moderne jette sur toute chose, et donc sur lui-même, un regard fixe, effaré, vide. Donc j'ai repris la traduction même de Baudelaire pour donner un titre à mon ouvrage. Alors pourquoi regard vide, et surtout pourquoi regard ? Laissons de côté la vacuité pour l'instant. Tout simplement parce que ce qui définit, alors là, pratiquement tous les auteurs y ont insisté, depuis justement que Platon, dont vous parliez tout à l'heure, parlait de l'œil de l'âme, qui regarde en direction du bien pour Platon dans la République, jusqu'à des auteurs comme Lévinas, donc c'est vraiment, ça couvre à peu près 21 siècles. Tous les auteurs qui se sont intéressés à l'approche de la pensée européenne, et encore une fois qu'elle soit philosophique, scientifique, politique ou autre, disons culturelle au sens large, ont remarqué que cette approche était toujours théorique. Théoria en grec signifie regard. Théorein, ça signifie regarder. Et donc, l'installation que fait l'Européen dans le monde est toujours une installation de type théâtral ou dramatique. Qu'est-ce que c'est que le théâtre ? C'est l'endroit d'où l'on regarde une scène, distincte évidemment des spectateurs, qui sont à distance précisément, qui ne se mêlent pas aux acteurs. Ils peuvent se mêler éventuellement avant ou après la représentation. Mais tant qu'il y a une représentation théorique, dans un théâtre, le regard du spectateur reste, qu'on le veuille ou pas, un regard éloigné, un regard distant, ou, comme on le disait tout à l'heure avec Kant, un regard transcendantal. Alors j'ai essayé de voir dans quelle mesure ce regard éloigné, distant, critique, transcendantal, peu importe les mots ici selon le contexte, constituait l'apport européen. Alors évidemment, il y a tout de suite une question qui se pose ou une objection qui s'impose, à savoir, mais les autres peuples aussi ont regardé le monde ou se sont regardés eux-mêmes.
Oui, parce que pour reprendre ce que vous dites, ce regard sur soi, enfin ce regard à distance, est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas la définition même de la conscience ? C'est-à-dire que le fait d'être différent de soi et dans cet espace entre soi et soi-même,
oui.
de pouvoir penser. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la conscience européenne, si on veut dire ça comme ça, dans ce regard distant ?
C'est qu'elle reste toujours finalement critique à l'égard d'elle-même jusqu'à se nier elle-même. Ça peut même aller jusqu'à sa destruction et donc au regard vide. Quand vous prenez les autres religions ou les autres sagesses, en particulier orientales, puisque le couple qui a défini la pensée européenne, c'est pas simplement, comme on le disait tout à l'heure, le couple Romania-Barbaria, c'est-à-dire civilisation romaine puis européenne et barbarie, ça a été souvent le couple Orient-Occident, qui fonctionne encore toujours aujourd'hui, voire la séduction des mages ou des sagesses orientales, des médecines orientales, douces, etc. Il y a toujours une séduction en l'Occident de l'Orient, dont il est d'ailleurs originaire. Je vous rappelle que Paul Valéry disait, en reprenant une phrase de Nietzsche, que l'Europe était un petit cap du continent asiatique. Donc au fond, l'Europe ou l'Occident n'est rien d'autre que le prolongement de l'Orient. Mais un prolongement qui justement s'est séparé de l'Orient. Car lorsque vous prenez toute la pensée orientale, qu'elle soit Chine, qu'elle soit Japon ou qu'elle soit Inde, qui est certainement peut-être la plus riche en tant que civilisation, vous apercevez que le but dernier, pour dire les choses un peu rapidement, de ces sociétés, ce n'est pas l'éveil, au sens de Bouddha, puisque Bouddha signifie éveillé, c'est l'endormissement. C'est le retour dans une sorte de sein initial, soit sous forme de métempsychose, soit sous forme de perte dans le grand tout, soit sous forme de dissolution dans le nirvana en tant que tel. C'est-à-dire que c'est une forme de pensée, qu'on le veuille ou pas, qui est une sorte de soumission à des cycles de vie, à des cycles cosmiques, tout à fait intéressant par ailleurs, sur le plan intellectuel ou spirituel, mais qui n'ont pas cette spécificité, là pour l'instant nous ne classons pas les civilisations, nous essayons simplement de les définir, cette spécificité de la pensée européenne qui est d'être toujours d'un mouvement inquiet, si je puis dire. On a parlé tout à l'heure de critique, je préférerais même parler d'inquiétude. Ce qui définit fondamentalement la pensée européenne, serait-ce même dans ses plus hautes réalisations philosophiques ou théologiques, c'est que la pensée européenne est toujours inquiète. Elle ne peut pas se reposer sur je ne sais quel sommeil de la raison, pour parler avec Goya, n'est-ce pas ? Elle est donc toujours tendue en avant, selon le mot de Charles Quint qu'il avait donné à son propre empire et qui est devenu d'ailleurs la signature de l'Espagne encore aujourd'hui, en 2007, c'est plus ultra. La pensée européenne, c'est une pensée de la transgression, c'est une pensée du franchissement, justement parce qu'elle vise toujours un être le plus éloigné, le plus idéalement possible, que ce soit même l'idée de révolution, ou l'idée de démocratie, ou l'idée de perfection, ou l'idée de vérité. À chaque fois, c'est la constitution d'un univers abstrait que l'on voit très bien, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, lorsque l'on prend un poète, comme le grand poète portugais Pessoa. Si je peux dire un passage qui me paraît tout à fait remarquable de Pessoa, c'est dans un texte que je cite à la fin du premier chapitre.
Parce que ce qui est tout à fait remarquable, puis je vous laisse trouver la partie, mais c'est effectivement ce regard européen qui est un regard en tension, qui d'une certaine façon permet de voir loin, de voir au loin, si on veut dire ça comme oui. ça, et qui est toujours, non pas dans une forme d'assurance à l'égard de lui-même, mais aussi dans un regard critique à l'égard de ce qu'il fait. Et donc la question que je vous poserai après que vous ayez lu ce texte, c'est celui effectivement de la supériorité ou de la raison de la supériorité de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe est la seule à avoir inventé l'anthropologie, l'esprit critique, la scientificité, la démocratie, le droit de l'homme, enfin voilà. Et que tout ça, d'une certaine façon, est lié à cette question de du regard
tout à fait
loin. Alors, je vous laisse lire ce texte.
Oui, j'ai retrouvé le texte de Pessoa, Fernando Pessoa, en 1917, dans un texte poétique qui s'appelle Ultimatum. Et c'est un ultimatum qu'il lance depuis le Tage, c'est-à-dire depuis le Portugal, à l'extrême avancée de l'Europe, dans l'Atlantique, à l'ensemble de la culture européenne. Alors, il commence par expulser tous les mandarins de la littérature, dehors Anatole France, Maurice Barrès, H.O. Evel, Chesterton, Danondio, et il dit « Nous vivons une faillite générale de tout à cause de tous, une faillite des peuples et de leur destin. » Et qu'est-ce qu'il ajoute ? L'Europe a faim de création et soif d'avenir, où on retrouve cette idée de transgression et de plus outre, et il a une phrase poétique, puisque Ultimatum est un poème, qui est totalement platonicienne ou kantienne. Qu'est-ce qu'il dit ? L'Europe réclame la grande idée dont seraient investis les hommes forts. Et il ajoute, l'Europe veut de simples désignations géographiques devenir une personne civilisée. Je proclame cela bien haut et à l'apogée sur la barre du Tage, le dos tourné à l'Europe, et donc le corps tourné vers l'avenir. Les bras levés, les yeux fixés sur l'Atlantique, voilà l'horizon dont vous parliez tout à l'heure, en saluant abstraitement l'infini. Phrase extraordinaire. L'Europe a toujours salué abstraitement l'infini, de Pessoa jusqu'à Lévinas. Lorsque Lévinas écrit un ouvrage qui s'appelle L'intrigue de l'infini, il veut montrer par là que ce qui fait la grande pensée européenne, c'est qu'elle vise toujours une idéalité qui est infinie et donc inatteignable. Alors, et voilà pourquoi elle est toujours en franchissement.
Alors justement, vous dites effectivement clairement que ce regard européen, devenu vide aujourd'hui, mais ce regard européen fait l'éloge de l'infini. Donc n'y a-t-il pas à votre avis, un risque qui s'est avéré, malheureusement, au XXe siècle, d'une surestimation, d'une façon, de l'infini, d'une oui. forme de fureur des concepts. Enfin, donc, le totalitarisme n'est-il pas, d'une certaine façon, une conséquence logique, trop logique, idéologique, si on veut, de l'esprit européen? Et je rappelle que Arendt faisait de la terreur la réalisation de la loi du mouvement. Donc, d'une certaine façon, est-ce que ce débordement que nous avons connu au XXe siècle n'est-il pas la suite logique, trop logique, humain sur humain, enfin, de ce regard européen qui fait l'éloge de l'infini?
Vous avez tout à fait raison, et vous avez bien fait de citer Arendt, qui insiste effectivement sur le fait que les deux terreurs que l'on a connues au XXe siècle, c'est-à-dire la terreur communiste, léniniste, et la terreur nazie, à savoir d'un côté la terreur sociale et la terreur raciale, les deux intégrés dans une matérialité brutale, la matérialité de la race ou la matérialité de la classe, étaient une perversion et une déviation du mouvement fort et raisonnable, si je puis dire, qui portait l'Europe en avant.
Alors vous caractérisez, vous dites que le communisme est une fureur de l'universel et que l'hitlérisme est une démence du particulier.
Oui, il me semble totalement, d'ailleurs François Furet l'avait déjà dit quand il avait parlé de ces deux jumeaux qui étaient le communisme féroce et le nazisme brutal ou barbare, à savoir que dans les deux cas il y a une sorte de perversion à la fois de l'universel et du particulier. Et pour revenir à votre question, vous avez tout à fait raison de remarquer qu'il peut y avoir un mauvais usage de l'universel. Déjà, Hegel avait critiqué ce qu'il appelait le mauvais infini, dans lequel, rappelez-vous, tous les chats sont gris ou toutes les vaches sont noires. Il en parle dans une formule fameuse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une perversion de l'infini, une perversion de l'universel, comme il peut y avoir une perversion dans le particulier, par exemple dans les replis communautaires ou dans les replis identitaires, dans lesquels la recherche de sa propre identité ne sert plus qu'à détruire l'identité d'autrui. Et il est vrai que l'Europe a détruit d'autres identités, je le disais dans plusieurs chapitres de cet ouvrage, en montrant que dès la conquête du monde, le plus outre de Charles Quint, cette idée de transgression, a permis à l'Europe de conquérir pratiquement tous les espaces vides de la planète, de détruire parfois des civilisations, même si ces civilisations aussi se détruisaient entre elles sans l'arrivée des Européens. Mais la caractéristique que tous les grands penseurs ont remarquée, tant des penseurs dits conservateurs ou de droite que des penseurs dits révolutionnaires ou de gauche, je pense à Constantin Castoriadis par exemple, à savoir que ce qui fait la caractéristique de l'Europe, c'est qu'elle a toujours pris conscience de ses crimes et elle les a toujours condamnés.
Mais est-ce que ça veut dire que vous considérez que les crimes totalitaires dont on parle sont la conséquence quand même de cette idée européenne ou une parenthèse de l'idée européenne ou une perversion de l'idéal européen?
Je dirais plutôt une perversion. Je ne pense pas que ce soit une parenthèse. Enfin, en tout cas, la parenthèse est pour l'instant heureusement fermée. Je crois que c'est une perversion parce que il me semble que le mouvement ne devient fou. Le mouvement de la pensée européenne qui vise à détruire d'autres peuples, comme l'ont fait les Allemands, ou comme l'ont fait les Soviets, si vous voulez, en détruisant les koulaks ou d'autres formes de la société, paysanne ou bourgeoise, vient du fait que lorsque ce mouvement qui emporte toujours, dans une sorte d'inquiétude angoissée, l'Europe en avant, perd son enracinement dans l'idéalité, qui lui donne quand même une certaine stabilité, perd son enracinement dans un vrai infini, et non pas dans un faux infini, dans ce cas-là, le mouvement devient absolument aveugle. La force, comment dire, la violence de l'Europe, qui a quand même créé deux guerres mondiales, ça, personne ne peut le nier, c'est l'Europe qui a été la plus destructrice des civilisations sur Terre. C'est indiscutable, et je cite même des textes, comme le texte de Suzanne Sontag, que vous avez peut-être vu,
absolument,
qui non seulement met en cause l'Europe et l'Occident, mais même la race blanche, de façon presque raciste, en disant que la race blanche, et donc la race européenne, est le cancer de l'humanité. Ce qui n'empêchait pas la même Suzanne Sontag, lorsqu'elle a eu elle-même un cancer, de s'adresser à des médecins européens ou à des médecins américains. Ce qui fait qu'on a toujours une attitude duelle, pour ne pas dire une attitude duplice, à l'égard de ce qui fait que nous sommes quand même des Européens ou des Occidentaux en Amérique, à savoir que d'un côté, nous dénonçons les crimes des Européens, crime de la colonisation, crime même à la limite de l'éducation. Nos ancêtres, les Gaulois, appris par les petits noirs ou par les petits jaunes en Indochine, etc. Et qu'en même temps, nous prenons conscience de ces crimes et nous les dénonçons en tant que tels. Or, je vous rappelle quand même, qu'est-ce qui a fait que les Européens, en inventant par exemple l'anthropologie, comme le dit Lévi-Strauss, ont inventé une forme d'expiation? C'est le mot qu'utilise Lévi-Strauss. Mmh. L'anthropologie n'est pas simplement un mode de connaissance, dit Lévi-Strauss, par rapport à la pensée européenne, mais un mode d'expiation, puisque par la connaissance des autres cultures, la culture européenne essaye de se purifier de la destruction des autres cultures. Mais il ne faut pas oublier que ce qui permet à la pensée européenne de connaître les autres cultures, c'est en même temps ce qui les détruit. Car enfin, le regard de l'anthropologue détruit bien son objet. C'est Claude Lévi-Strauss lui-même, dans Anthropologie structurale, qui fait remarquer que le but dernier des sciences humaines n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. Dès que vous analysez une société, vous la détruisez, au moins conceptuellement, en tant que telle. Les Nambikwara n'ont pas besoin des structures élémentaires de la parenté que Lévi-Strauss leur propose pour définir leur relation vécue de parenté. Or, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que toutes les sociétés autres qu'européennes, ou toutes les grandes civilisations autres qu'européennes, la Chine, l'Égypte, l'Inde, le Japon, tout ce qu'on voulait, aussi bien les Aztèques que les Incas, n'ont jamais eu ce regard universel et ce regard critique, ni à l'égard des autres cultures, qu'elles n'ont pas connues, ni à l'égard de soi-même. La spécificité du regard européen, c'est qu'elle est toujours tellement avide de connaissances, alors là, c'est pas un regard vide, sans jeu de mots, c'est un regard avide, qui veut toujours extraire du particulier de l'universel, comme si l'on extrayait de l'or d'une gangue que l'on a fouillée au fond de mine, elle a une avidité non seulement de nouveauté, mais de conceptualité ou de conceptualisation qui fait qu'elle est toujours en avant d'elle-même. Lorsqu'elle perd son ancrage, me semble-t-il, dans l'idée d'âme, dans l'idée de monde et dans l'idée de Dieu, c'est-à-dire dans des idées régulatrices, comme les appelle Kant, ben elle n'est plus régulée. Et on sait très bien ce que c'est qu'aujourd'hui un univers absolument dérégulé. C'est un univers qui a perdu toute orientation véritable et qui, un petit peu comme l'insensé dont parle Nietzsche au paragraphe 125 du Gai Savoir, est comparable à un petit navire qui a perdu sa route, qui a perdu son orientation.
Alors vous montrez bien, et on va faire une petite pause musicale là-dessus, vous montrez bien effectivement qu'il y a cet équilibre qui s'opère au sein de l'esprit européen ou du regard européen, entre le regard éloigné, donc la projection d'une part, et puis le sens critique, qui lui permet effectivement de pouvoir critiquer, y compris ce que...
Et de se distancer avec soi-même, ce qui est, diraient les Anglais, une preuve d'humour. Il y a une dimension d'humour dans la pensée européenne, et pas simplement d'ironie.
Voilà, nous allons faire notre petite pause musicale, et nous reprendrons sur cette question que vous avez soulevée, à savoir celle de l'âme européenne. Prenons donc notre entretien sur, effectivement, la question européenne. Et donc, nous étions restés, juste avant la pause musicale, sur les perversions donc, de l'esprit européen trop logique, et donc qui oublie, disiez-vous, son âme. Alors, Patočka, effectivement, que vous citez, faisait du souci de l'âme le trait essentiel de l'héritage européen. Et il ajoute que ce souci de l'âme est ce qui a engendré l'Europe. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'âme... Alors, comme, à la fois comme idée régulatrice, enfin, et ou comme croyance, voilà, les deux, vous parliez de Kant, est au fondement de l'Europe, et qu'il ne peut pas y avoir d'Europe sans conscience de l'âme.
Oui, la référence que vous faites à Patočka se trouve dans un ouvrage qui s'appelle précisément « Platon et l'Europe », mais il la reprend aussi dans d'autres ouvrages, en particulier dans les Essais hérétiques, qui sont des ouvrages un peu plus politiques. Mais dans Platon et l'Europe, et dans le reste de son œuvre, Patočka revient à plusieurs reprises sur l'expression platonicienne que l'on trouve à plusieurs reprises sous la plume de Platon ou dans la bouche de Socrate, « d'épiméléia tes psuches », que l'on peut traduire en français soit par le souci de l'âme, soit par le soin de l'âme, ça dépend des traducteurs. On pourrait dire que ça correspond d'ailleurs à ce que Heidegger dans « Sein und Zeit », dans « Être et temps », appelle la sollicitude. Quand Heidegger dit qu'il y a deux modalités de l'attention que nous portons au monde, il y a le souci, que les choses soient ce qu'elles sont, et la sollicitude que nous portons aux autres hommes. Eh bien, cette sollicitude, c'est ce que, encore une fois, Patočka, en reprenant cette vieille expression platonicienne, appelle le soin de l'âme. Or, ce soin de l'âme, il se manifeste par trois formes. Pour que l'âme se soigne ou ait souci d'elle-même, il faut d'une part qu'elle s'intéresse au monde, on en a déjà parlé, et qu'elle définisse donc un procès de connaissance, Il faut qu'elle s'intéresse à la vie commune dans la cité, et donc elle ait un souci de justice, et il faut aussi qu'elle s'intéresse à son propre souci, à son auto-souci ou à son auto-sollicitude, ce que j'appelais tout à l'heure l'amour de soi avec Jean-Jacques Rousseau, qui fait que dans ce cas-là, elle recherche la vérité. Dans un cas, vous cherchez... Elle recherche même plus que la vérité, elle recherche le sens. Parce que comme le montre très bien Hannah Arendt dans son ouvrage sur la pensée, il y a une différence entre chercher la vérité, ce qui renvoie au monde, la vérité est toujours la vérité du monde, entre chercher la justice, ce qui renvoie à la communauté, la justice est toujours la justice parmi les hommes, et le sens qui renvoie finalement à la signification de la condition humaine. Et ce que cherche au fond l'âme quand elle revient sur elle-même et quand elle a souci de soi, alors je ne parle plus du souci du monde ou du souci de la cité, mais du souci de soi, tel qu'on le trouve dans le roman, tel qu'on le trouve dans la poésie, tel qu'on la trouve chez Rimbaud ou tel qu'on la trouve chez Baudelaire, mais tel qu'on le trouve aussi chez un poète ou chez un Kafka dans le château, c'est de comprendre que l'existence humaine a un sens et que sa propre existence, ou au-delà de sa propre existence, que l'existence de tous les hommes dans l'universalité de leurs conditions a un sens. Or, c'est cela qui, me semble-t-il, a fait, enfin, me semble-t-il, je ne fais que reprendre ici ce que dit Patochka, a fait l'originalité de la culture européenne, c'est d'unir dans un seul bouquet, si vous le voulez, ces trois fleurs, si je puis dire, transcendantales, que sont, d'une part, la connaissance du monde en tant qu'idéalité du réel, d'autre part, la justice de la cité en tant qu'idéalité de l'éthique et de la politique, et le sens de soi dont parle un Charles Taylor, par exemple au Canada, puisque vous le citiez tout à l'heure, lorsqu'il parle du malaise dans la modernité, en reprenant un titre qui est quasiment freudien, « Malaise dans la civilisation », Charles Taylor montre qu'aujourd'hui, c'est le soi qui est d'une certaine manière brisé, qui est pulvérisé en quelque sorte, qui perd son sens.
Mais est-ce que d'une certaine façon, on ne peut pas, si on pousse un peu plus loin ce que vous dites, considérer que ce que vous défendez, ou ce que vous mettez en exergue, c'est d'une certaine façon une certaine représentation de l'homme européen, même de l'homme de façon générale, qui a été balayé ou est évacué par la modernité.
C'est-à-dire actuellement, certainement.
Est-ce que vous n'êtes pas un archaïque, un rétrograde d'une certaine façon, qui défendait une certaine idée de l'homme, alors que maintenant, cette idée de l'homme, d'une certaine façon, on croit, à juste titre ou à tort, c'est la question, que l'on peut s'en passer et que l'homme, d'une certaine façon, le souci de l'âme, le souci de l'autre, le souci de l'altérité, tout ça. Est-ce que tous ces soucis-là ne sont pas de vieux héritages judéo-platoniciens dont il faut impérativement, pour être moderne, absolument moderne, se passer ?
Ou même post-moderne.
Ou même post-moderne.
Mais dans ce cas-là, ça signifierait que nous n'avons plus de considération ni pour l'humanité de l'homme, qui reste tout de même une abstraction, puisqu'elle n'est pas... Et puis, ni par vous, ni par moi, dans notre conversation, l'humanité de l'homme, ça reste donc, qu'on le veuille, pas une abstraction, mais à mes yeux, une bonne abstraction, ni évidemment une dignité quelconque de l'être humain. Si vous ne croyez plus, et je dis bien croyez, car ce n'est pas une question de science, mais une question de croyance, au sens kantien du terme, si vous ne faites plus un acte de foi dans l'âme humaine, ou dans l'homme, en lui considérant une dignité, toutes les dérives sont possibles. Et on l'a bien vu, justement, avec le marxisme d'un côté, le maoïsme, et évidemment, en premier champ, le nazisme lui-même. Alors, évidemment, le fait de se référer à un homme universel, comme on disait, « homo universale » à la Renaissance, le fait de se référer à un homme universel, qu'il soit d'origine judéo-chrétienne d'un côté et gréco-romaine avec le droit romain, bien entendu, de l'autre, tel que ça a culminé à la Renaissance et au-delà même encore au XVIIIe siècle, et dont nous avons les contre-coups actuellement avec ce qu'on appelle l'humanisme moderne ou tout simplement l'humanitaire, ou tout simplement la Déclaration universelle des droits de l'homme, encore une fois de 1948, cela renvoie à une tradition, cela renvoie à un héritage. La question est de savoir pourquoi ne devrions-nous plus assumer notre héritage, alors que les mêmes auteurs qui parfois, je pense à un Derrida, mais il y en a beaucoup d'autres, qui critiquent l'idée d'une identification de l'Europe, acceptent pourtant qu'il y ait une identification des autres peuples ou des autres civilisations. Pourquoi seule l'Europe n'aurait-elle le droit de faire appel à son identité ? Serait-elle une identité de type mythique ou de type imaginaire. Je ne prétends pas que l'Europe ait jamais, je dis même le contraire dans cet ouvrage, ait jamais incarné un type d'homme universel concrètement, précisément parce que ce type d'homme universel ou ce type de société universelle du genre humain, comme disaient déjà les stoïciens, ou ce type d'âme universelle qui accorde à chacun sa dignité, même aux pauvres, même aux malades, même aux délinquants, même aux criminels, c'est une constitution théorique, c'est un certain regard porté sur l'humain. Alors par quoi le remplacer ?
Sans remplacer, mais...
Telle est la question.
Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer quand même que l'approche spirituelle qui est la vôtre n'est pas liée, trop liée, peut-être même historiquement liée, au christianisme en tant que religion ? Le regard européen dont vous parlez, d'une certaine façon, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est le même que le regard chrétien ? La portée sur le lointain...
En ce sens, oui.
Le fait de creuser l'espace critique, et effectivement, Rémi Braque, par exemple, a bien montré que...
Tout à fait.
Que la laïcité est un produit du christianisme, et que l'éloge de l'infini, ces trois éléments constitutifs dont vous parlez, sont d'une façon chrétiens. Donc, est-ce que la difficulté de l'approche européenne ne tient pas à cet homme? C'est ce que Clavel disait, mais qui t'a fait homme, voilà. Donc cet homme qui est finalement un homme chrétien, et que d'une certaine façon, vous défendez au nom de l'humanité ou au nom de l'humanisme, mais qui peut être considéré par d'autres comme étant trop lié à un homme chrétien.
Oui, pour tout dire, et pour reprendre ce que vous venez d'avancer, l'homme chrétien, c'est toujours donné d'entrée catholique. Or, catholou en grec veut dire universel. Lorsque saint Paul, dans différentes épîtres, dit qu'avec la bonne nouvelle de la révélation de Dieu, il n'y a plus ni barbare, ni grec, il n'y a plus ni juif, ni gentil, il n'y a plus ni homme, ni femme, il n'y a plus ni maître, ni esclave, n'est-ce pas ? En déstructurant donc toutes les particularités, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient même biologiques, qu'elles soient même sexuelles, il n'y a plus ni parents, ni enfants, il ouvre là le champ d'une universalité qui sera certes au départ une universalité catholique et donc chrétienne, mais qui par la suite, lorsqu'elle se laïcisera, pratiquement dès le XVIIe, XVIIIe siècle, va devenir universelle en fait, et pas simplement universelle en droit sur le plan religieux. Et c'est cette universalité dont je pense que nous ne pouvons pas faire l'économie. Ce qui me... gêne et qui m'a poussé d'ailleurs, pour tout vous dire, à écrire cet ouvrage, c'est deux choses absolument contradictoires. C'est que lorsque vous lisez tous les grands auteurs qui se sont interrogés sur l'Europe, en gros depuis Victor Hugo par exemple, puisqu'il y a des textes absolument extraordinaires de Victor Hugo sur l'Europe, à la fois philosophiques, poétiques, politiques, évidemment culturels, évidemment, alors là il y a un eurocentrisme chez Hugo qui est considérable, l'Europe c'est la matrice du monde, bien avant Husserl, mais la France est la matrice de l'Europe, et Paris est la matrice de la France. Donc là vraiment, il y a... une centralité symbolique, d'ailleurs, pas du tout administrative ou politique chez Hugo.
Et Victor Hugo est la matrice de Paris.
Et Victor Hugo est la matrice de Paris, évidemment. Lorsqu'il parle dans Notre-Dame de Paris de l'art tyran, en parlant de l'architecture, je pense qu'il parlait d'abord de lui-même. Mmh. Une sorte de tyrannie Hugo-lâtre, si je puis dire, qui nous fait sourire aujourd'hui, mais qui ne faisait sourire personne lorsque Hugo parlait, y compris à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'on croyait véritablement bien, y compris outre-mer, que l'Europe était vraiment, comme dira Husserl plus tard, reprenant d'ailleurs des expressions quasiment hugoliennes, la matrice de l'humanité. Mais je reviens à ce que je disais sur le paradoxe. Le paradoxe, c'est que vous avez, pratiquement chez tous les auteurs, je disais depuis Hugo, même depuis Baudelaire, on peut même remonter jusqu'à Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, d'une part, une critique systématique des échecs de l'Europe par rapport à sa propre idéalité. C'est-à-dire une reprise critique incessante de tous les grands penseurs, depuis le discours sur les lettres et les arts de Jean-Jacques Rousseau, en passant par Nietzsche jusqu'à Camus ou jusqu'à Hannah Arendt, une mise en cause de l'Europe qui n'est pas fidèle finalement à son destin. Et donc qui n'est pas fidèle à sa propre identité. Comme si l'Europe s'altérait, pour ne pas dire s'aliénait en elle-même, au cours du temps. Mais en même temps, vous avez, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, et c'est peut-être dû à l'ébranlement des deux guerres, vous avez beaucoup d'auteurs, je citais Derrida tout à l'heure, mais il y en a d'autres, qui mettent en cause la possibilité d'une identification de l'Europe, ou même l'existence d'une culture européenne. Pourquoi ? Parce que cette culture européenne n'existerait que sous forme d'altérité qui risquerait d'être détruite par précisément cette sorte de totalitarisme européen, car enfin, et pour m'en tenir, et je m'arrêterai là ensuite, à un simple constat. Dans le monde d'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la mondialisation, pour parler rapidement, tout a été apporté par les Européens. Toute la science est européenne depuis Copernic ou Galilée. Toute la médecine est européenne depuis Claude Bernard. Toute la biologie est européenne, toute la chimie est européenne, toutes les sciences exactes sont européennes. D'ailleurs, Lévi-Strauss le dit sans arrêt, même quand il parle des excuses que les Européens devraient faire en tant qu'expiation vis-à-vis des autres peuples. Donc, non seulement l'Europe a apporté la science, ou la connaissance, si vous le voulez, théorique, on revient toujours au regard, mais elle a apporté la démocratie. On peut en faire un mauvais usage, y compris en Irak ou ailleurs, mais c'est un fait. Elle a apporté l'idéal démocratique ou l'idéal de la société des nations déjà prévu par Kant, qui est devenu par la suite l'ONU. Pratiquement toutes les inventions technologiques sont européennes, depuis le cinéma jusqu'à la télévision jusqu'à Internet, ce qui montre bien cette sorte de poussée irrésistible en avant, qu'il ne s'agit pas ici de juger bonne ou mauvaise, mais de constater cette sorte d'influx planétaire qui fait que l'Europe a imposé ses catégories mentales, pour dire les choses simplement, y compris dans le domaine le plus intellectuel, car enfin l'invention de l'école, c'est Platon avec la scolée, l'invention de l'université, ce sont les universités européennes dès le XIIIe et le XIVe siècle. Et aujourd'hui, l'univers tout entier, y compris en Orient, est couvert d'universités, d'écoles. C'est-à-dire que les catégories à la fois mentales, administratives, juridiques, politiques et finalement sociales de l'Europe se sont imposées partout. Alors il faut quand même se demander si, non seulement ce n'est pas justifié historiquement, mais si ça ne renvoie pas quand même à une identification de l'Europe à partir de ce processus.
Je voudrais juste qu'on fasse une petite pause musicale avant de reprendre notre débat. Nous nous sommes quittés juste avant la pause musicale sur cette idée, effectivement, que d'une certaine façon, l'Europe domine, ou du moins l'idée européenne domine, ou les progrès multiples et variés de l'Europe dominent, au moment même où l'Europe, de cette façon, n'a plus d'identité. Elle ne se reconnaît plus elle-même. Alors la question sur laquelle on est resté, c'était de dire, est-ce que la grande difficulté ne vient pas de cette séparation à opérer entre l'âme européenne qui existerait indépendamment du religieux, et l'âme chrétienne, qui a été un élément de soubassement, de formation de cette âme européenne. Et pourquoi je dis cela ? Parce que nous assistons effectivement à ce défaut d'identité, à cette corruption identitaire, que vous reliez dans votre livre à la mort de Dieu. Et je vous cite, « C'est la mort de Dieu qui a révélé, en retirant la clé de voûte du grandiose édifice européen, la fragilité de ses piliers, la limitation de ses arcs-boutants et la déficience de ses contreforts. Sans la présence réelle, précise George Steiner, du sens, qu'il prenne la forme du bien pour la philosophie ou de Dieu pour la religion, les significations se délitent et se dispersent avant de disparaître dans l'indifférence générale. » Alors la question, c'est de dire, est-ce que d'une certaine façon, l'Europe peut exister, l'âme européenne peut exister après la mort de Dieu ?
Je pense que oui, et je serai sur ce plan totalement optimiste, en reprenant une autre image que celle que vous venez d'utiliser, l'image de Dieu ou l'image du bien, l'image de Dieu chrétienne, l'image du bien platonicien. Je prendrai l'image de l'étoile que l'on trouve chez un très grand nombre d'auteurs européens, d'ailleurs eux-mêmes. On la trouve aussi ailleurs. Vous la retrouvez évidemment chez Nietzsche avec Zarathoustra. Vous la trouvez chez Frank Rosenzweig avec l'étoile de la rédemption. Vous la trouvez chez Kant. Vous la trouvez chez Hegel. Vous la trouvez chez Heidegger. Rappelez-vous le texte de Heidegger qui s'appelle « L'expérience de la pensée » où Heidegger dit « Marcher vers une étoile, rien d'autre ». Ou encore « La pensée est une unique idée qui un jour demeurera comme une étoile au ciel du monde ». Ça, c'est la pensée européenne. Nous passons ici par une image cosmique, si vous voulez, l'image de l'étoile en tant qu'elle éclaire ou en tant qu'elle donne vie, en quelque sorte. Et l'étoile, c'est finalement notre soleil. On revient toujours à cette image du soleil platonicien. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce côté stellaire, en quelque sorte, de la pensée européenne ? Et alors là, c'est le cas de dire que l'étoile est un regard éloigné, où le regard que nous portons sur elle est manifestement éloigné et nous permet pourtant de comprendre ce qui se passe en ce monde-ci, c'est-à-dire sur cette terre. Parce que, fondamentalement, la pensée européenne, à la fois dans sa source grecque, dans sa source romaine, et surtout dans sa source chrétienne, si vous le voulez, et même juive, parce qu'il y a quand même toute une série de strates juives à l'intérieur de la pensée chrétienne, a toujours essayé de penser, encore une fois, c'est ainsi et pas autrement, tous les auteurs le disent, a toujours essayé de penser son identité, si l'on veut utiliser ce terme, en fonction d'une poussée vers l'idée, d'une poussée vers l'infini, qui régulait en quelque sorte ce rythme. Alors, est-ce que c'est l'infini ou l'étoile qui nous tire en avant, ou est-ce que c'est la force de la critique européenne qui la pousse vers l'infini, qui prend l'initiative en quelque sorte? Est-ce que c'est Dieu ou l'homme? Est-ce que c'est le bien ou la cité? Est-ce que c'est l'étoile ou le réel? Quand vous lisez certains textes, précisément sur la notion d'étoile que vous trouvez chez Kant ou chez Hegel, vous avez cette idée selon laquelle l'étoile kantienne ou hegelienne, puisque Hegel reprend l'image, est une sorte d'idée régulatrice qui nous attire en quelque sorte, comme un peu comme l'aimant attirerait la limaille de fer. Quand ce mouvement d'attirance ou d'aimantation n'existe plus, la limaille de fer se retrouve complètement disjointe, se retrouve complètement en séparation. Et d'une certaine manière, ce qui manque, et je reviens alors là sur le terrain politique, ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est tout simplement un lien, et un lien qui ne peut être qu'extérieur à lui-même, un lien qui renvoie vers ce regard lointain. On le voit très bien. Rappelons-nous ce qu'a dit Jacques Chirac lorsqu'il était président de la République à plusieurs reprises, lorsqu'on l'a interrogé sur ce qui faisait l'identité européenne. Jacques Chirac a toujours répondu en disant que ce n'était ni la géographie, d'où la possibilité de faire entrer non seulement la Turquie, mais d'autres pays extra-européens sur le plan strictement géographique au niveau du continent, qui s'appelle quand même l'Europe depuis Hérodote, ni l'histoire. C'est-à-dire que l'Europe n'est plus aujourd'hui qu'une sorte d'espace virtuel où n'importe quelle société pourrait rentrer comme dans un club, à condition de suivre les règles de ce club, c'est-à-dire règles administratives, règles juridiques, règles libérales sur plan économique, de type anglo-saxon. Il ne s'agit pas pour nous de critiquer ou de louer cela, mais de constater une chose, c'est que l'Europe aujourd'hui est une sorte d'espace vide qui continue à porter, et c'est là le plus grand paradoxe, le mot d'Europe, parce qu'on n'en a pas trouvé de meilleur, mais on aurait pu traduire simplement par communauté européenne, ou même supprimer le mot Europe et dire communauté des États libéraux, un peu comme les États-Unis d'Amérique, on pourrait dire les États-Unis d'Europe, ou si encore une fois le mot Europe gêne, supprimer complètement le mot pour dire des États libres ou indifférenciés. Ce qui est gênant dans ce cas-là, c'est qu'on s'aperçoit que l'Europe n'arrive plus à s'assumer comme telle. Il me semble que celui qui l'a le mieux vu, c'est encore un poète, que je cite souvent à la suite d'Anna Arendt, il a commenté encore plus souvent que moi, René Char, dans Fureur et Mystère, un texte écrit en 1943, paru chez Gallimard, dans lequel René Char dit « Notre héritage, il parle de l'héritage européen, n'est précédé d'aucun testament ». C'est-à-dire qu'il y a bien un héritage européen, et déjà le mot même d'Europe, cet héritage existe dans les bibliothèques, cet héritage existe dans les universités, cet héritage existe dans les livres, dans les musées, bref, dans tous les supports matériels que nous continuons à transmettre nos lins-volins. Mais il n'y a pas de mode d'emploi, en quelque sorte. Il n'y a pas de testament. Ouais. Alors les testaments, comme dirait l'autre, sont trahis.
Ouais. Mais est-ce que, d'une certaine façon, cette situation d'une identité européenne qui n'arrive plus à s'assumer, et donc qui se caractériserait à la fois par un accueil maximum et une identité qui n'existe pas, voilà, quelque chose qui serait non pas dans le dialogue, c'est-à-dire je suis qui je suis et je vous accueille tel que vous êtes, voilà, mais dans... c'est vous, d'une certaine façon, qui faites mon identité. Est-ce que cette crise européenne, ou cette crise d'identité européenne, ou cette incapacité à définir l'Europe, si ce n'est effectivement pour des libéraux comme une zone de libre-échange et strictement cela, n'est pas due, d'une certaine façon, à un changement de logiciel, enfin, ou un changement de style? Dans un débat que vous avez eu récemment avec Rémi Braque, d'une part, et puis Michel Maffezoli, d'autre part, vous sembliez tomber d'accord sur ce passage d'un changement à l'autre. Simmel disait qu'il y a deux styles, le style optique, qui dit optique dit regard, dit projection vers l'extérieur, et puis le style tactile. Tactile, on se touche, on est là, les uns autour des autres, voilà, et donc on est dans le contact. Bon. Est-ce que ce passage...
Et on n'est plus dans le lointain.
Et on n'est plus dans le lointain, parce que le lointain, de toute façon, suppose effectivement qu'on puisse lever les yeux.
Voilà, ouais,
qu'on n'ait pas une
dimension optique.
Voilà, qu'on est au-delà de ses mains. Voilà. Bon. Et donc ce passage de l'un à l'autre, est-ce qu'il n'est pas, d'une part, la mort, d'une façon, de l'idée du regard, d'une part, et deuxièmement, la condition commune de l'homme moderne?
Moi, personnellement, je le crois. Et encore une fois, je ne parle pas simplement à titre individuel. Je m'appuie sur tous les auteurs qui ont parlé de ces questions. Et encore une fois, ces auteurs ne sont pas simplement des philosophes ou des théoriciens au sens universitaire du terme. Ça peut être des essayistes, ça peut être des écrivains. Je cite beaucoup des écrivains d'Europe de l'Est, non seulement Patochka, mais Karel Kozik. Je cite aussi Christopher Lasch, qui était un marxiste américain et qui dit exactement la même chose dont je témoigne actuellement, à savoir qu'il y a une sorte d'épuisement, d'essoufflement, si vous voulez, pour garder l'image de Laura chère à Walter Benjamin, une sorte d'essoufflement de la pensée européenne, d'épuisement de son regard, d'un regard qui devient de plus en plus creux, parce qu'il ne se tourne plus que lui-même. Des sortes d'orbites vides, si vous voulez. Alors, on m'objectera en disant, mais enfin, les choses tournent quand même. Il y a un développement technologique, économique et considérable, certes. Mais lorsque votre véhicule est ensablé, vous pouvez toujours faire tourner les roues. Elle tourne aussi, mais le véhicule n'avance plus. Et surtout, il n'a plus de direction. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'Europe ne patine pas, si vous voulez, aujourd'hui?
Mais est-ce qu'on n'est pas là dans une forme de querelle entre les anciens et les modernes? C'est-à-dire entre ceux qui, effectivement, pensent que la considération de l'homme, la considération de l'âme est une chose importante qui doit être prise en compte dans l'éducation, oui, de l'homme, etc. Et puis, le moderne qui dit non, 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 tout ça, ça aboutit effectivement à la société liquide, ça aboutit à la perte des repères. Mais bon, nous vivons là-dedans.
Oui, oui. Oui, vous savez, tout a déjà été dit par Nietzsche quand il définit le nihilisme de l'époque moderne, c'est-à-dire lorsque Nietzsche, qui généralise le terme de nihilisme, même si ce n'est pas lui qui l'a créé, fait remarquer, dès les années 1880-85, surtout à la fin de sa vie, que le nihilisme, c'est la perte totale d'orientation, la perte de sens, et il dit même d'ailleurs la perte d'étoile. Rappelez-vous le premier discours de Zarathoustra, lorsque Zarathoustra décrit le dernier homme, il faudrait dire le dernier européen, ou le dernier homme revêtu d'une dignité, la foule se moque de lui, et Zarathoustra dit, oui, le dernier homme, c'est celui qui cligne de l'œil et qui se met à rire quand on lui parle d'amour et d'étoiles. C'est exactement ce que dit Nietzsche, donc vocabulaire évidemment symbolique. Pour dire par là qu'il n'y a plus de système de référence qui donnerait encore un sens. Vous disiez tout à l'heure, au début de notre conversation, un horizon. Le terme est husserlien. Je crois que l'horizon, ce n'est pas suffisant. Un horizon n'existe en tant qu'horizon que s'il est surplombé d'une hauteur. De la même manière, si vous le voulez, qu'une boussole n'a de sens que si elle est surplombée par un astrolabe, qui donne à la fois les deux dimensions de la hauteur et de l'horizon.
Mais pour le dire autrement, vous citez ce texte de Nietzsche qui est tout à fait éclairant et qui nous met effectivement dans la perspective de la catastrophe. Il dit « Notre culture européenne, tout entière, se meut depuis longtemps déjà avec une torturante tension qui croît de décennie en décennie, comme portée vers une catastrophe, inquiète, violente, précipitée, comme un fleuve qui veut en finir, qui ne cherche plus à revenir à soi, qui craint de revenir à soi. »
Je crois que tout est dit, bien avant Patochka, bien avant Arendt, bien avant Camus, bien avant Georges Steiner, cette idée, que l'on trouvait d'ailleurs dans un texte de Nietzsche antérieur au texte que vous venez de citer, lorsque Nietzsche disait que nous vivons dans l'unkultur, dans la non-culture. Il écrivait ça en 1872. Et après lui, Georges Steiner, que je citais à l'instant, dit « Nous vivons dans l'après-culture ». Il écrit ça dans Le Château de Barbe Bleue, vous savez, son texte de 1974. « Nous vivons, dit Georges Steiner, dans l'après-culture ». Alors évidemment, si l'on fait la part des choses, on dira « Vous êtes des anciens, c'est-à-dire vous êtes des nostalgiques ou des réactionnaires. Vous vivez encore sur la culture chrétienne ou la culture humaniste du XVIe siècle. Vous êtes encore un admirateur d'Erasme ou aussi bien de Voltaire ». Certes, mais il n'y a pas que cela dans la culture européenne. Il y a aussi la musique, il y a aussi la peinture, il y a aussi l'éducation, il y a aussi l'université, il y a aussi tout ce que Cicéron, puisque c'est lui qui a créé le mot, appelait cultura animi, c'est-à-dire le travail de l'âme de soi sur soi. Si on supprime cela, et si l'on fait de l'Europe actuelle, sous sa forme bruxelloise, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire sous sa forme administrative et juridique, simplement un espace virtuel de vacuité dans lequel n'importe qui pourrait devenir n'importe quoi, on perd non seulement l'héritage européen, c'est-à-dire le passé, mais on perd la possibilité de créer un nouvel héritage, c'est-à-dire l'avenir. Ce qui me paraît remarquable dans les critiques que l'on voit actuellement de l'héritage européen, c'est que ces critiques s'inquiètent toujours d'une identification possible de l'Europe. rappelons-nous le scandale, comme si l'identité était un mal, si vous voulez. Rappelons-nous le scandale qu'a fait, et que continue de faire avec quelques vagues, l'idée de M. Sarkozy de faire un ministère de l'identité de l'immigration. Rappelez-vous, faites les analyses des textes critiques à cet égard, que ce n'est pas simplement le mot d'immigration qui est gêné, c'est le mot d'identité qui est gêné.
Identité nationale, oui.
Comme si le fait d'avoir une identité nationale impliquait que vous seriez un conservateur, un réactionnaire, ou ce qu'on appelle encore un républicain dur, etc., comme si on voulait voir une connotation négative dans le terme d'identité. Mais pourquoi est-ce que le terme d'altérité serait plus positif, n'est-ce pas ? Une altérité n'existe que par rapport à un jeu d'identité, et une identité elle-même n'existe que par rapport à un jeu d'altérité à la fois externe et interne. J'insiste à plusieurs reprises dans l'ouvrage sur le fait qu'il n'y a jamais d'identité européenne fermée au sens logique du terme, au sens de « a » et « a », au sens de « l'être » et « l'être ». Ce sont des processus d'identification. Il est évident que l'Europe n'est pas la même au XVIe siècle, au XVIIIe ou au XXe siècle, mais elle grossit de son propre héritage et elle ouvre de nouvelles voies qui sont toujours quand même articulées sur l'universel.
Alors, comment, d'une façon, en sortir ? Vous dites effectivement que l'identité européenne, elle, ne se reconnaît plus. Donc, on est dans un dialogue qui n'est pas un dialogue, qui est un monologue d'accueil. C'est-à-dire que j'accueille le monologue de l'autre sans jamais me définir moi-même par honte.
Oui, certains refusent même qu'il y ait une identité quelconque, même pas l'identité de l'accueil.
Exact. Voilà. Ce qui est.
Ça serait un accueil vide, en quelque sorte.
Voilà.
Tout le monde pourrait rentrer en Europe.
Enfin, le philosophe que vous êtes sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de dialogue sans que je existe et que vous existez aussi. Donc ce dialogue qui, d'une certaine façon, fait que j'accueille sans me définir, est effectivement un symptôme de cette crise. Alors la question, c'est, est-ce que cette catastrophe dont parle Nietzsche déjà en 1887 n'est pas, de façon, le dernier mot, cette catastrophe d'épuisement, cette anémie spirituelle, n'est pas le dernier mot de l'aventure européenne ?
Ben pour l'instant, on pourrait le croire, puisque certains sont allés jusqu'à penser, effectivement, j'ai cité une fois de plus Georges Sénère tout à l'heure, qu'on était vraiment dans l'après-culture, c'est-à-dire dans un mode d'existence commune de type planétaire, si vous le voulez, qui ne serait plus orienté par ce qu'on appelait traditionnellement la culture, et donc l'homme, puisqu'au centre de la culture, il y a évidemment l'homme. C'est-à-dire qu'on serait dans une société de consommation, mais tout le monde l'a dit, depuis Marcuse jusqu'à Heidegger, donc des penseurs de droite, des penseurs de gauche, des penseurs marxistes, des penseurs libéraux. C'est-à-dire qu'on serait dans une sorte d'espace virtuel de consommation et de consommation à tout prix, relié par des techniques de plus en plus efficaces, comme l'est par exemple Internet, sans qu'il y ait une finalité au sens où, non seulement Nietzsche, mais quelqu'un comme Husserl prenait le terme, c'est-à-dire sans qu'il y ait un télos, une sorte de fuite en avant pour produire des produits de grande consommation de plus en plus grands. Aujourd'hui, la culture, à tous les égards, et Hannah Arendt le dit bien dans l'ouvrage qui s'appelle « La crise de la culture », lorsqu'elle fait remarquer qu'aujourd'hui, toutes les œuvres rentrent dans un schéma non seulement marchand, et économique, mais dans un schéma de consommation culturelle. On consomme de la culture, on consomme du Cézanne, si vous le voulez. Rappelons-nous, l'an dernier, toute l'œuvre de Mozart en 100 ou 150 CD bradés pour 20 ou 30 euros, etc.
100.
Hein ?
100.
Ou 100 euros, une sorte de condensation de toutes les grandes œuvres musicales, picturales, etc. Aujourd'hui, vous trouverez ça sur DVD ou sur iPhone ou sur n'importe quel support électronique, mais qui ne renvoie plus à une finalité significative de l'œuvre en question. Il s'agit simplement de consommer pour consommer, parce qu'on nous l'a dit, et pour relancer la machine économique, etc. Alors, je ne critique pas ici le système économique libéral ou capitaliste, outre le fait qu'il s'est aujourd'hui mondialisé, comme chacun sait, mais le fait que cette consommation empêche qu'il y ait un autre regard tourné sur les choses. Je ne peux pas quand même quand je regarde la télévision, car c'est aussi un regard que je porte sur la télévision, quelles que soient les émissions, même Star Academy, je ne peux pas quand même avoir toujours un regard de consommateur, c'est-à-dire un regard destructeur, et non pas un regard qui arrive à intérioriser un sens que, de toute manière, à mon avis, je trouve toujours à l'extérieur de moi-même. Moi, je garde cette idée, à savoir que le grand regard européen qui a été créateur et qui a été efficace est un regard qui joue toujours sur l'attention du proche et du lointain. Et c'est cela qui permet à cette idéalité d'avoir finalement un sens.
Alors, ça sera ma dernière question, parce que le temps passe, malheureusement. Est-ce qu'une certaine façon, c'est pas un paradoxe? C'est-à-dire, ce que vous décrivez, on a l'impression que à la fois, l'Europe est dans la victoire, c'est-à-dire que, elle a réussi à coloniser, son schéma de pensée a réussi à être dans le mouvement de la mondialisation, et donc, elle est partout. Et en même temps, elle n'existe plus. Il y a comme d'une certaine façon, elle a réussi à vaincre ses ennemis, et elle n'arrive plus à se définir alors même qu'elle domine. Est-ce que c'est pas le paradoxe européen d'une Europe qui est partout et qui, d'une certaine façon, est nulle part,
C'est le paradoxe de toute fin. Vous connaissez l'expression chrétienne, mort, où est ta victoire? Là, il suffirait de dire Europe, où est ta victoire? C'est une sorte de victoire, la Pyrrhus, si vous le voulez. Parce que la mondialisation, par le biais de l'occidentalisation, y compris de l'Orient, vous voyez la Chine actuellement, quel est le système chinois pourtant défini par le Parti communiste? D'abord, le communisme est une invention européenne. Et quel est le système chinois actuel? C'est le capitalisme. Autre invention européenne. C'est-à-dire que toute la planète s'est mise à l'école de l'Europe en pervertissant peut-être même les grands idéaux, les grandes valeurs européennes. Mais ce qui manque à l'Europe ou à cette Europe mondialisée, c'est un nouveau souffle qui donnerait un sens à l'existence. Car enfin, encore une fois, ce n'est pas simplement moi qui dis cela, mais aussi bien Charles Taylor que vous citiez tout à l'heure, une Hannah Arendt et beaucoup d'autres auteurs, un Christopher Lasch, encore une fois, un Karel Kozik, etc.
Steiner aussi,
qui disent tous que l'univers dans lequel nous entrons ou nous nous développons est de plus en plus vide de sens. Et je ne crois pas que l'on puisse éliminer la quête du sens. Alors certains se replient sur les idéaux communautaires, religieux, islamiques. D'autres vont à Katmandou, comme déjà dans les années 68, pour essayer de trouver de nouvelles voies d'accès à ce que d'aucuns pourraient appeler une spiritualité, à ce que d'autres pourraient appeler tout simplement une signifiance, si vous voulez. Je crois quand même que le grand projet européen, même s'il a été un projet à bien des égards tâtonnant, ni Platon, ni Spinoza, ni Descartes, ni Bach, ni Mozart n'ont essayé consciemment de créer une unité de la culture européenne, mais ils y ont contribué à leur niveau, tout simplement parce qu'ils étaient poussés par un mouvement. Je reviens à l'aura de Benjamin. Ils étaient poussés par un souffle. Et souffle, c'est aussi une traduction du mot âme, n'est-ce pas? Il y avait, je crois, fondamentalement une âme européenne qui, pour l'instant, je ne dirais pas qu'elle a disparu totalement, mais qu'elle n'existe plus que de façon antiquaire, comme disait Nietzsche. Elle n'existe plus que dans les bibliothèques, elle n'existe plus que dans les musées, et j'ose craindre qu'elle n'existe plus tellement dans l'université.
Jean-François Mattei, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup de nous avoir comme ça éclairé sur ce regard européen en train de se vider. Tel est le titre de votre livre, Le regard vide, essai sur l'épuisement de la culture européenne, auquel je renvoie tous nos auditeurs, qui est publié chez Flammarion. Merci beaucoup.
Merci de votre invitation.
C'est moi.
Canal Académie.